Chapitre 4. Nietzsche écarta sans y penser une branche de sapin ruisselante d'eau. Depuis quelques minutes, elle suivait la petite colonne d'hommes qui s'enfonçait dans la forêt, mais la promenade menaçait de se compliquer car Richard et l'homme qui le guidait venaient de s'engager sur une piste qui serpentait sur le flanc d'une colline très escarpée. Avec la pluie, le sol rocheux était très glissant et l'ancienne maîtresse de la mort n'avait aucune envie de se casser une jambe. 3 jours plus tôt, pour transporter Richard jusqu'à la ferme, les sauveteurs avaient emprunté un chemin moins accidenté, mais beaucoup plus long. Au pied de la pente, le petit groupe entreprit de slalomer entre des rochers afin de contourner une vaste zone marécageuse, entourée par de grands cèdres squelettiques qui semblaient veiller jalousement sur l'intimité d'une mare d'eau croupie. Les ruisselets qui dévalaient la pente couverte de mousse creusaient dans la boue des sillons assez profonds pour révéler par endroits le granit moucheté enfoui dessous. Après plusieurs jours de pluie, il y avait des flaques d'eau un peu partout. En règle générale, la forêt, avec ce genre de temps, sentait bon la terre détrempée, mais à certains endroits, une odeur de végétaux décomposés agressait les narines. Même si cette marche forcée l'avait mise en nage, Nietzsche avait très froid aux doigts et aux oreilles. Si loin au sud, dans l'ancien monde, la chaleur et l'humidité, elle le savait, reviendraient très vite, et dans la fournaise, tout le monde regretterait la fraîcheur d'aujourd'hui. Citadine de naissance, Nietzsche n'avait jamais passé beaucoup de temps dehors. Au palais des prophètes, où elle avait résidé durant la plus grande partie de sa vie, la nature se réduisait aux magnifiques jardins et pelouses qui couvraient l'île Collet. Tout ce qui s'étendait hors de l'enceinte du complexe des Sœurs de la Lumière lui avait toujours paru vaguement hostile. Quant à la campagne, elle la tenait pour une nuisance qu'il fallait traverser pour aller d'une ville à l'autre. À ses yeux, les cités et les grands bâtiments étaient des refuges contre les constantes agressions de la vie sauvage. Plus important encore, c'était là, dans les villes, que Nietzsche avait lutté pour l'amélioration de l'humanité. Avec une telle mission à remplir, les champs et les forêts avaient toujours été le cadet de ses soucis. D'autant plus qu'elle n'avait jamais été sensible à la beauté des collines, des arbres, des cours d'eau, des lacs et des montagnes. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec Richard. Depuis, même les villes lui apparaissaient sous un jour nouveau. Cet homme rendait tout merveilleux. Nietzsche s'avisa qu'elle s'était laissée distancer. Avançant un peu plus vite sur le sol rocheux glissant, elle négocia une petite butte et découvrit que ses compagnons marquaient une pause à l'ombre d'un antique érable. Non loin de là, Richard s'était agenouillé pour étudier le terrain. Il finit par se lever et sonda un long moment la forêt devant lui. Comme toujours, Cara, plus fidèle qu'une ombre, était campée à ses côtés. Sous la frondaison verte, son uniforme rouge sautait aux yeux comme une tache de sang sur une serviette de table à l'heure du thé. Nietzsche comprenait pourquoi la mort de Sid protégeait Richard avec tant de passion. Les deux femmes avaient un point commun, être d'anciennes ennemies du sorcier. Mais Cara ne lui était pas fidèle simplement parce qu'il était le nouveau seigneurial. En fait, il avait gagné son respect puis son amitié en se montrant humain et loyal. L'uniforme rouge était conçu pour faire peur. La promesse que toute personne qui s'en prendrait au seigneur le paierait très cher. Et il ne s'agissait pas de vaines menaces. Dès l'enfance, les morts de Sith étaient programmés pour ignorer la pitié. À l'origine, leur mission consistait à capturer les sorciers ou les magiciennes et à retourner leur pouvoir contre eux. Mais elles étaient tout à fait capables d'utiliser leurs compétences face à toutes sortes d'adversaires. Sans même en avoir conscience, des hommes qui connaissaient et appréciaient Cara gardaient leur distance lorsqu'elle portait son uniforme rouge. D'expérience, Nietzsche savait à quel point la mort de Sith, depuis la mort de Darkenral, devait être heureuse de ne plus servir aveuglément un maître qui la répugnait. De lointains croassements de corbeaux se répercutaient un peu partout dans la forêt. Humant l'air, Nietzsche capta l'odeur des charognes déjà bien décomposées. Quand elle regarda autour d'elle en quête de points de repère, comme Richard le lui avait appris, elle remarqua un pin, à la base d'un gros rocher, qui l'avait frappé à cause de son tronc en deux parties, dont l'une s'incurvait vers le sol pour former une sorte de siège. La bataille avait eu lieu à cet endroit, juste derrière un rideau de buissons et de lianes. Richard se remit en route avant que Nietzsche ait pu le rejoindre pour l'avertir qu'ils approchaient du but. En avançant vers le pin des doublés, le sourcier leva les bras au-dessus de sa tête et se mit à crier comme un fou furieux. Des dizaines de gros charognards noirs s'envolèrent, indignés d'être dérangés en plein milieu d'un festin. Quelques secondes durant, il sembla qu'ils ne se laisseraient pas chasser si facilement, mais l'impressionnante note métallique que produisit l'épée de Richard quand il la dégaina les décida à abandonner les lieux. Bizarrement, on eût juré qu'ils avaient reconnu l'arme et peut-être aussi son porteur. Comme s'ils redoutaient une ruse, l'épouvantail vivant qui venait d'avoir raison des corbeaux attendit quelques instants avant de rengainer son arme. Puis, il se tourna vers ses hommes.
« Pour l'instant, restez tous hors de cette zone !» ordonna-t-il. « Attendez-moi là où vous êtes !»
Estimant qu'aucune consigne ne la concernait dès qu'il était question de la sécurité du seigneur Hall, Kara le suivit quand il entreprit d'inspecter la petite clairière au-delà des buissons et des lianes. Nietzsche continua à avancer, passa devant les hommes silencieux, gravit une petite butte couronnée par un bosquet de bouleaux maigrichons, slaloma entre les troncs constellés de taches noires rondes qui ressemblaient à des yeux et s'arrêta au bord de la courte pente qui menait à la clairière. Quand elle s'appuya d'une main contre le tronc d'un des arbres, elle remarqua qu'un carreau d'arbalète était fiché dans l'écorce. Le bouleau d'à côté, lui, avait reçu 3 flèches et d'autres arbres étaient ainsi blessés. En bas, le sol était jonché de cadavres de soldats de l'ordre impérial. Ici, la puanteur donnait la nausée, et si les corbeaux s'étaient enfuis, les mouches, qui ne redoutaient pas les épées, continuaient à festoyer et à pondre des œufs dans les dépouilles. De gros vers étaient déjà à l'œuvre sur certains corps. Beaucoup de morts étaient décapités ou privés d'un bras ou d'une jambe. Quelques-uns gisaient à moitié submergés dans une mare d'eau croupie. Les corbeaux et les autres charognards avaient déjà bien entamé leur festin, la tâche facilitée par les plaies béantes que portaient tous les cadavres. Les cuirasses, les manteaux de fourrure, les ceinturons cloutés, les cottes de mailles et les armes de ces soldats ne leur servaient plus à rien. Assez souvent, les vêtements qui enveloppaient ces corps boursouflés restaient boutonnés malgré la tension, comme pour tenter de préserver un peu de dignité dans des circonstances où il ne pouvait plus y en avoir. La chair, les os et la foi fanatique de ces soudards étaient condamnés à pourrir dans ce marécage. Un étrange destin pour des héros censés conquérir le monde. Nietzsche resta là où elle était pendant que Richard inspectait les cadavres. Quand Victor et ses hommes étaient arrivés le matin de la bataille, le sourcier avait déjà grandement éclairci les rangs adverses. Pendant combien de temps avait-il combattu avec un carreau dans la poitrine ? Nietzsche l'ignorait, mais en règle générale, une blessure de ce type ne laissait pas beaucoup d'autonomie à un guerrier. Massés autour de l'érable, les quelques 20 hommes qui accompagnaient Richard avaient resserré autour d'eux les pans de leurs manteaux. Avec les pluies de ces derniers jours, il faisait plutôt frisquet. Agités par un vent léger, les branches des bouleaux, des chênes et des ormes se débarrassaient de leur lourde cargaison d'eau. Des flaques boueuses se formaient au pied des troncs, ajoutant à l'humidité ambiante. Richard avait presque contourné la mare. De nouveau accroupi, il observait encore le sol et Nietzsche aurait donné cher pour savoir ce qu'il cherchait. Aucun compagnon du sourcier ne semblait avoir envie de revoir le site de la bataille transformé en charnier. Attendre sous un arbre ne dérangeait pas ces hommes, bien au contraire. Pour eux, tuer n'était pas normal, et ils avaient des difficultés à s'y faire. Ayant décidé de combattre pour une cause qu'ils estimaient juste, ils ne se dérobaient pas, mais toute cette aventure leur déplaisait. Cette attitude en disait long sur leur valeur morale. Après le combat, ils avaient brûlé les dépouilles de 3 frères d'armes, mais ils avaient laissé pourrir celles de la centaine de soudards qui les auraient réduits en charpie sans l'intervention de Richard. Nietzsche se souvint de sa surprise, le jour de l'affrontement, quand elle avait découvert Richard au milieu d'un camp de cadavres, sans comprendre qui avait pu abattre tant d'ennemis. Puis, elle avait vu le sourcier se déplacer avec la grâce d'un danseur parmi des adversaires ivres de sang. Un spectacle fascinant. Chaque coup de Richard faisait une victime.
Les soldats survivants semblaient stupéfiés que tant de leurs camarades soient déjà tombés. Pour la plupart très jeunes, ces types étaient des colosses habitués à intimider les gens. Correctement formés, ils maniaient fort bien l'épée. Pourtant, toutes leurs attaques fendaient l'air à l'endroit où Richard aurait dû se tenir, mais qu'il avait depuis longtemps quitté. Son style de combat, fluide et subtil, ne convenait pas à leur tactique consistant à exploiter la force brute. Ébranlés par leur échec, ils semblaient se demander s'ils ne combattaient pas une armée de fantômes, et en un sens, c'était le cas. Hélas, ils étaient trop nombreux pour un homme seul, fut-il Richard, armé de l'épée de vérité. Tôt ou tard, l'un de ces taureaux enragés porterait un coup chanceux et tout serait fini. À moins qu'un carreau vienne foudroyer le sourcier, qui n'était pas invincible et encore moins immortel. Victor et ses hommes étaient arrivés juste à temps, détournant de Richard l'attention des soldats de l'ordre. Puis, Nietzsche avait mis un terme à l'affrontement en lançant un sort dévastateur sur les soudards survivants. Parce qu'elle redoutait l'orage imminent et plus encore l'arrivée inopportune d'une autre horde de soldats, Nietzsche avait ordonné aux hommes qui portaient le sourcier de prendre le chemin le mieux protégé à travers la forêt. Comme c'était aussi le plus long, elle avait envoyé en Richard un filament de son Han qui le garderait en vie jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'en faire plus. Cette course effrénée contre la mort donnerait encore longtemps des cauchemars à l'ancienne sœur de l'obscurité. Elle en était certaine. Ignorant les soldats morts, Richard s'était remis à inspecter le champ de bataille en prêtant surtout attention au périmètre qui le délimitait. Qu'espérait-il donc trouver? Allait-il encore longtemps décrire des cercles concentriques de plus en plus larges autour du charnier et se mettre de temps en temps à quatre pattes pour mieux observer le sol? À force de jouer à ce petit jeu, il finit par disparaître dans la forêt. Lassé d'attendre, Victor vint rejoindre Nietzsche sur sa butte. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à voix basse.
« Il cherche quelque chose. »
« Ça, je m'en suis rendu compte. Mais je parlais de cette histoire d'épouse. »«
Désolé, mais je n'en sais rien. »«
Vous devez avoir une idée, non ?»
Nietzsche aperçut fugitivement Richard entre deux troncs, assez loin dans la forêt.
« Il a été grièvement blessé. Les personnes en danger de mort délirent parfois. »
« D'accord, mais il est guéri à présent. Il agit normalement, pas comme quelqu'un qui a des visions ou je ne sais quoi dans ce genre, et pourtant je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi. »«
Moi non plus, » admit Nietzsche.
Victor n'était pas le genre d'homme à parler ainsi d'un ami, sauf quand il était mort d'inquiétude pour lui.
« Cela dit, » continua la magicienne, « nous devons nous montrer compréhensifs, sachant ce qu'il a subi et lui laisser le temps de reprendre ses esprits. » Après tout, il vient de se réveiller après des jours d'inconscience.
Victor prit le temps d'assimiler ses propos, puis il soupira et hocha la tête pour indiquer qu'il était d'accord. Nietzsche fut soulagé qu'il ne lui ait pas demandé ce qu'il devrait faire si le sourcier s'enfonçait dans ses fantasmes. Richard venait d'émerger de la forêt. Victor et elle descendirent la pente et marchèrent à sa rencontre. Pour quelqu'un qui le connaissait mal, le sourcier aurait pu paraître particulièrement concentré et résolu, rien de plus, mais Nietzsche devina qu'il avait un très gros problème. S'arrêtant devant ses amis, il chassa les feuilles, la mousse et les brindilles qui maculaient les genoux de son pantalon, puis lança
« Victor, ces soldats n'étaient pas là pour reprendre Alterrang. »
« Tu en es sûr ?»«
Absolument. Pour investir une cité révoltée, il faut des milliers d'hommes, voire des dizaines de milliers. Ce détachement n'aurait pas suffi, et loin de là.
De plus, si Alterrang avait été l'objectif de ces soudards, qu'aurait-il fichu dans ce marécage très loin de la ville? Forcé d'admettre que son ami avait raison, Victor fit la grimace.
Dans ce cas, que crois-tu qu'il faisait?
Il marchait dans cette forêt alors que l'aube n'était pas encore levée. Selon moi, il menait une mission de reconnaissance.
Richard tendit un bras sur le côté. « Il y a une route par là. Nous l'avons utilisée pour voyager vers le sud.
En principe, notre campement était assez loin de cette artère pour que nous n'ayons pas d'ennui. En tout cas, je le croyais. À l'évidence, c'était une erreur. »«
C'est une route importante, » dit Nietzsche. « une des premières et des plus vitales que Jagang a construite. Grâce à elle, il a pu déplacer ses troupes très rapidement. Son réseau de communication l'a beaucoup aidé à asseoir sa domination sur l'Ancien Monde.
Une voie pareille lui permet aussi d'acheminer très vite le ravitaillement et l'équipement.
Voilà ce qui est arrivé d'après moi.
Si près d'Alterang et informé de la révolte, les soldats avaient peur qu'une colonne de l'intendance tombe dans un piège.
Je suis sûr que Jagang envoie tout ce qu'il faut à ses troupes en campagne dans le nord,
car il doit en finir avec le Nouveau Monde avant de pouvoir écraser la sédition chez lui.
Victor, je pense que ces hommes nettoyaient le terrain pour ouvrir le passage à un convoi. Ils étaient en patrouille sitôt dans l'espoir de tomber sur des insurgés encore endormis.
Ce que nous étions, grogna Victor, visiblement mécontent. N'ayant jamais imaginé que des soldats ratisseraient cette forêt, nous dormions comme des bébés. Si tu n'avais pas été là, ils nous auraient étripés dans notre sommeil. Et aujourd'hui, c'est nous qui nourririons les corbeaux et les mouches.
Un long silence ponctua cette sinistre déclaration.
Tu as entendu dire que des convois étaient partis pour le nord ?
Demanda Richard au forgeron.
Pour sûr, on parle tout le temps de ces caravanes. Certaines sont escortées par des troupes fraîches qui partent pour le front. Ta théorie se tient.
Richard s'agenouilla et tendit un bras.
Vous voyez ces traces ? Elles remontent à un peu après la bataille. Un détachement important, sans doute à la recherche des éclaireurs. Ces hommes ont fait demi-tour dès qu'ils ont repéré les cadavres. Les traces prouvent qu'ils étaient plutôt pressés.
Richard se releva et posa la main gauche sur le pommeau de son épée.
Si vous ne m'aviez pas immédiatement évacué, ces soldats nous seraient tombés dessus. Par bonheur, ils ont préféré rebrousser chemin plutôt que de fouiller les environs.
Pourquoi ont-ils fichu le camp si vite sans même s'occuper des morts ?
Ils ont sûrement surestimé nos forces, craint pour la sécurité du convoi et jugé urgent d'aller donner l'alarme. Seule la nécessité de protéger une caravane peut expliquer qu'ils n'aient pas enterré leurs morts.
Victor étudia les traces puis tourna la tête vers le charnier.
Cette situation n'a pas que des désavantages, dit-il. Pendant que Jagang s'occupe de sa guerre de conquête, il nous laisse l'occasion de miner les fondations de l'ordre dans l'Ancien Monde.
Richard secoua la tête.
L'empereur s'occupe de la guerre, c'est vrai, mais ça ne l'empêchera pas d'agir pour restaurer son autorité ici. Celui qui marche dans les rêves est un expert en matière d'écrasement de toute opposition. Au fil du temps, nous avons payé très cher pour l'apprendre.
Richard a raison, intervint Chi. Il est dangereux de tenir Jagang pour une simple brute. Il est violent, bien sûr, mais c'est un homme intelligent et un brillant tacticien. Avec l'expérience qu'il a accumulée, il est presque impossible de le pousser à agir impulsivement. Il peut se montrer brave quand le courage et l'audace ont toutes les chances de réussir, mais son caractère le pousse à calculer et à prévoir. Se faisant guider par la logique, pas par l'amour-propre, il ne voit pas d'inconvénient à laisser un adversaire croire qu'il a gagné. Et pendant ce temps, il réfléchit à la meilleure manière de lui arracher les tripes. La patience est sa qualité la plus redoutable. Quand il passe enfin à l'attaque, il se fiche des pertes que subiront ses forces pourvu qu'il lui reste assez de soldats pour vaincre. Pourtant, tout au long de sa carrière, du moins jusqu'à la campagne contre le Nouveau Monde, il a perdu moins d'hommes que ses adversaires. Tout simplement parce qu'il se moque de notions classiques comme la gloire et l'honneur. Les héroïques victoires le laissent de marbre. L'idéal pour lui, c'est d'écraser l'adversaire sous le poids du nombre et d'un armement supérieur. Le traitement que ces soudards infligent aux vaincus est universellement connu. Pour ceux qui se dressent sur son chemin, l'angoisse est insupportable. Aucun individu sain d'esprit ne voudrait tomber entre les mains des bourreaux de Jagang. Du coup, des cités entières tombent sans combattre, l'accueillant comme un libérateur et l'implorant de les laisser se joindre à l'ordre impérial.
Victor ne mit pas en doute les propos de Nietzsche. L'ancienne maîtresse de la mort, il le savait, avait été témoin de ces événements quand elle n'y avait pas joué un rôle majeur. Parfois, lorsqu'elle songeait à son adhésion passée aux thèses de l'ordre, cette philosophie qui ramenait sournoisement l'humanité à la barbarie, Nietzsche regrettait d'être encore de ce monde. De fait, elle méritait amplement la mort. mais elle était désormais en mesure de contribuer à la défaite de l'ordre, grâce justement à tout ce qu'elle avait appris durant ces années noires. L'idée de pouvoir réparer le mal qu'elle avait aidé à commettre lui donnait la force de continuer à vivre.
« Jagang tentera bientôt de reprendre Alter Rang, » dit Richard.
« S'il pensait que c'est l'unique foyer de sédition, »
fit Victor.
« Il ferait sûrement ce que tu dis, et la répression ensuite serait terrible. Mais nous faisons tout pour que ça n'arrive pas. »
Le forgeron eut un grand sourire.
« Nous allumons des incendies dans toutes les villes et tous les villages où des gens sont prêts à briser leurs chaînes.
Richard, la révolte se répand partout dans l'Ancien Monde, privant l'Empereur d'une cible précise. »«
Ne te fais pas trop d'illusions, mon ami. Alter Rang est sa ville natale. C'est là que la révolution a commencé, un soulèvement populaire dans la cité même où il construisait son palais démentiel. » Cette cité devait devenir le fief à partir duquel Jagang et les prêtres de l'ordre auraient tyrannisé l'humanité au nom du Créateur. Un règne prévu pour durer des millénaires, mon ami. Mais le peuple a rasé le palais et opté pour la liberté.
Jagang ne laissera pas une telle offense impunie. Si l'ordre veut dominer l'Ancien Monde et le Nouveau, il doit d'abord écraser ce foyer de sédition. Pour Jagang, c'est une cause sacrée, car il considère toute opposition aux théories de l'ordre comme un blasphème. Pour faire un exemple, il n'hésitera pas à nous envoyer ses meilleures troupes. Il noiera la révolte dans le sang, et pour lui, le plus tôt sera le mieux.
Victor parut troublé, mais pas vraiment surpris.
« N'oublions pas un point, » dit Nietzsche. « Les prêtres de l'ordre qui ont survécu à l'insurrection travaillent activement à rétablir l'autorité de l'empereur. Ces hommes ont le don, vous le savez. « Ce ne sont pas des ennemis ordinaires, et nous sommes loin de nous en être débarrassés. »«
C'est vrai, mais on ne peut pas forger le fer avant de l'avoir chauffé. »
Victor brandit un poing rageur.
« Au moins, nous avons allumé les forges. »
Nietzsche concéda ce poing au forgeron et eut un petit sourire pour adoucir son discours terriblement pessimiste. Victor avait raison. Il fallait commencer quelque part et par quelque chose. En bien des lieux, il avait déjà réussi à rendre le goût de la liberté à des gens qui avaient jusque-là perdu tout espoir. Mais il ne devait pas perdre le sens des réalités et sous-estimer les difficultés qui les attendaient tous. Si elle l'avait moins bien connu, Nietzsche aurait été soulagé d'entendre Richard tenir un discours pareillement sensé sur la stratégie et la tactique. Hélas, ça n'empêchait rien. Quand il était concentré sur un objectif personnel, le sourcier pouvait régler les problèmes secondaires très efficacement, mais ça ne le persuadait pas pour autant de renoncer à sa quête. En un sens, s'il avait averti Victor avec tant de précision et de clarté, c'était pour mieux se décharger du problème. Dans ses yeux, Nietzsche lisait clairement une grande hâte de s'occuper de questions beaucoup plus importantes.
« Tu n'étais pas avec Victor et ses hommes ?»
demanda soudain le sourcier à son ami. En un éclair, Nietzsche comprit pourquoi l'histoire de la caravane de vivres était si importante pour Richard. Comme souvent, c'était un élément secondaire d'une bien plus vaste équation. Obstiné, le sourcier tentait d'intégrer le convoi à l'histoire qu'il s'était racontée en rêve. Pour ne pas être contraint d'y renoncer, il fallait que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent à la perfection.
Non, je n'étais pas avec eux. Nous n'avions aucune nouvelle de toi. En mon absence, Victor a quitté Alter Rang pour se lancer à ta recherche. Lorsque je suis revenu en ville, j'ai pu savoir où il était et je me suis mis en route pour le rejoindre. Comme j'avais encore du retard sur lui, je suis parti bien avant l'aube, le troisième jour de voyage, avec l'espoir de le rattraper. Je marchais depuis 2 heures quand j'ai entendu les échos de la bataille. Lorsque je suis arrivé, c'était presque terminé.
« Je me suis réveillé, » dit Richard, « et Callan n'était plus là. Puisque nous étions près d'Alter Rang, j'ai tout de suite pensé à te rejoindre pour te demander de l'aide. Puis, j'ai entendu les soldats qui marchaient dans la forêt. La pénombre a joué en ma faveur et j'ai pu les attaquer par surprise.
« Pourquoi ne t'es-tu pas caché ?»
demanda Victor.
« Il en venait de tous les côtés. »
Si j'ignorais leur nombre, il m'est vite apparu que ces soudards ratissaient la forêt. Dans ce cas, même en admettant que je me sois résolu à vous abandonner, où me serais-je caché? De toute façon, puisque Callan pouvait être dans les environs, peut-être blessé, fuir n'était pas une option. J'ai décidé de profiter de l'élément de surprise. Mais il fallait faire vite, car l'aube approchait. De plus, si ces soldats avaient capturé Callan, je devais la libérer sans tarder.
Personne ne fit de commentaire.
« Et toi, où étais-tu ? »
demanda Richard à Kara.
La mort de Sith en tressaillit de surprise.
« Eh bien, je n'en suis pas très sûr, »
répondit-elle après une assez longue réflexion.
« Que veux-tu dire ? De quoi te souviens-tu ? »
« J'étais de garde et je patrouillais assez loin du camp. Quelque chose a dû m'inquiéter et je vérifiais le périmètre. Soudain, j'ai aperçu une volute de fumée. J'allais tenter d'en savoir plus, mais j'ai entendu des cris.
« Du coup, tu as rebroussé chemin ?»
Kara repoussa distraitement sa tresse derrière son épaule. Ses souvenirs semblaient la fuir obstinément.
« Non, j'ai compris que vous étiez attaqué, Seigneur, parce que j'ai entendu le cliquetis des épées et les cris de douleur des soldats. Mais je me suis avisé que cette fumée montait en fait du feu de camp de Victor. » Si j'étais si près, il valait mieux que j'aille réveiller notre ami et ses hommes afin que nous venions vous aider.
C'est assez logique, dit Richard, pourtant pas totalement convaincu.
Tout s'est bien passé comme ça, confirma Victor. Kara n'était pas loin quand j'ai entendu les échos de la bataille. Je m'en souviens très bien parce que j'étais étendu dans le noir, les yeux grands ouverts.
Tu ne dormais pas ? Demanda Richard, visiblement très étonné.
« Non, des hurlements de loups m'avaient réveillé. »